À vous qui découvrez cet enregistrement dès sa sortie ou bien plus tard, ceci n'est pas seulement un podcast, c'est une enquête. Une enquête sur l'avenir. Il est indéfini, on nous dit qu'il est incertain, et de plus en plus il nous paraît plein de menaces. Mais est-ce une fatalité ? Je m'appelle Ariane Cronel et j'ai décidé de découvrir pourquoi on nous a comme kidnappé notre avenir. Et surtout, comment penser et avancer aujourd'hui pour faire exister des futurs qui nous réjouiront demain.
Enquête d'avenir.
Depuis le début de cette enquête, je m'interroge sur le rôle de ce qu'on apprend à l'école dans notre manière d'appréhender le monde et de réagir face à l'inédit. Patrick Lagadec, dans l'épisode précédent, a beaucoup insisté sur l'idée que l'école ne nous préparait pas aux crises et qu'elle nous entraînait à répéter des réponses connues plutôt qu'à créer des solutions nouvelles.
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école ?
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école ?
C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne !
Eh bien non ! Ce n'est pas Charlemagne. Dans la Grèce antique, les garçons des familles les plus aisées vont à l'école pour apprendre à lire, à écrire et à compter. Ils ont des classes de sport, d'art et de philosophie. Donc, définitivement, non, Charlemagne n'a pas inventé l'école.
Moi-même, pur produit du système élitiste à la française, j'ai appris à apprendre, par cœur, à dresser un panorama exhaustif de toutes les questions qui pourraient logiquement se poser. Mais ce n'est pas à l'école que j'ai appris à questionner mes croyances ou mes modèles. Ça, je l'ai appris ailleurs, en étant plongé dans d'autres langues, d'autres systèmes, d'autres cultures. Et à présent que notre modèle de développement occidental est profondément remis en question, eh bien je m'interroge sur ce que les enfants des jeunes générations apprennent à l'école, et sur comment ils l'apprennent. Vont-ils réellement être outillés pour l'avenir incertain qui nous attend ?
Franchement, je ne saurais pas dire.
Que faudrait-il donc apprendre à l'avenir ? Les enfants d'aujourd'hui sont-ils formés à répéter les logiques d'hier, celles-là même qui ont conduit à surexploiter les ressources et qui nous emmènent dans le mur ?
Aujourd'hui, l'école a pour mission la transmission des connaissances et des valeurs de la République et aussi l'éducation morale et civique. On y apprend notamment les règles du vivre ensemble et à développer notre esprit critique. Car vous le savez, l'école d'aujourd'hui forge les citoyens de demain.
Pour évoquer le rôle de l'école, au-delà de la définition bien-pensante qu'en donne Jamy, j'ai sollicité François Taddeï, auteur de plusieurs ouvrages et rapports au gouvernement sur les enjeux pédagogiques. Le nez bouché parce que je pense encore être un gros rhume, je le retrouve à Paris, dans les locaux du Learning Planet Institute, dont il est le directeur. Et nous commençons par évoquer le rapport à l'avenir des jeunes générations.
Quand on lit que 75% d'entre eux sont angoissés par l'avenir, il y en a tout un tas qui ne veulent plus avoir d'enfants, il y en a même qui sont suicidaires parce qu'ayant lu le rapport du GIEC, ils se rendent compte que la meilleure manière d'avoir une empreinte carbone zéro, c'est le suicide. Donc on est quand même face à une génération particulièrement angoissée. Ce n'est pas forcément facile pour la nôtre parce qu'il y avait déjà la menace nucléaire, il y avait déjà un certain nombre de choses, mais quand même, le niveau d'angoisse a encore été augmenté par la pandémie.
Nos jeunes expriment de plus en plus leur mal-être et leur difficulté accrue à se projeter dans l'avenir. Ils décrivent de plus en plus ce sentiment d'impuissance face au changement climatique qui s'accélère, ces jeunes.
Oui, effectivement, selon une étude menée auprès de 10 000 sondés dans 10 pays dans le monde et publiée dans le Lancet Planetary Health, 75% des jeunes de 16 à 25 ans jugent l'avenir effrayant et la moitié d'entre eux n'ont tout simplement plus foi en l'humanité.
Et le niveau de sentiment d'isolement, de perte de repères et donc de détresse au total ont été beaucoup accentués chez les adultes, mais encore plus chez les jeunes qui ont besoin d'interaction pour se construire et pour se construire en dehors de la relation familiale ou en dehors de la relation scolaire, mais les lieux de scolarisation ou d'université, etc., sont des lieux de rencontre et d'élaboration d'une réflexion sur sa place dans le monde, qui on est, d'où on vient, où on va, etc. Donc ce type d'interrogation a toujours été présente, depuis au moins les Grecs, enfin aussi longtemps qu'on a des traces écrites de ce genre d'interrogation, mais je pense qu'elles prennent une couleur et un contexte très singulier et qu'il faut savoir entendre. Et donc ces jeunes sont à la recherche d'autre chose. Et il voit bien que, à la fois, l'avenir politique, ils ne s'y reconnaissent pas. L'avenir écologique, ils s'en inquiètent. L'avenir professionnel ne les fait pas rêver. Et le présent de la scolarité, a fortiori en ligne, leur fait encore baisser les bras encore plus. Donc il y a de bonnes raisons pour lesquelles ils ne vont pas forcément tous bien. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ceux qui, entre guillemets, s'en sortent le mieux. Et ceux qui s'en sortent le mieux, c'est pas forcément ceux qui s'en sortent le mieux au niveau scolaire, parce que ça suffit plus pour ne pas être angoissé par l'avenir, par exemple. Alors que c'était une espèce de forme d'assurance dans les générations précédentes.
C'est sûr que mes parents et moi, nous avons grandi avec la croyance que bien travailler à l'école et être bon élève constituait une garantie solide de réussite sociale et professionnelle pour l'avenir. Et
donc ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui se bougent, c'est ceux qui sont acteurs du monde et pas juste spectateurs, voire consommateurs de solutions ou de produits qui ont été designés pour les rendre addictifs et les enfermer dans des logiques de consommation, voire d'hyperconsommation.
Tiens, voilà qui recoupe exactement les déclarations de Nicolas Mainviel dans l'épisode 1.
Donc ceux-là, qui ont un peu plus de réflexivité, d'engagement, s'en sortent plutôt mieux. Et moi, je pense que c'est assez naturel, parce qu'en fait, ils ont compris qu'au lieu d'être en compétition sur les savoirs d'hier, qui est essentiellement ce que l'offre éducative leur impose aujourd'hui, ils peuvent partir des défis d'aujourd'hui et co-construire des solutions. On a tous joué à des jeux de société, mais on a rarement été invité à changer les règles du jeu, ne serait-ce que du jeu de société, mais voire du jeu de la société. Et donc, il y a une génération entière de jeunes qui ne demandent qu'à coopérer sur les défis d'aujourd'hui et à contribuer à apporter des solutions que, très honnêtement, à notre niveau, on n'aurait pas forcément pensé parce qu'on est pris dans des schémas de pensée.
Ça ne vous rappelle rien, cette histoire de schéma de pensée? C'est très exactement ce dont parlait Patrick Lagadec dans l'épisode 3, au sujet de nos cartographies mentales qui nous tétanisent quand on se retrouve face à l'inconnu.
Et il est connu par ailleurs, par les spécialistes de sciences cognitives comme Alison Gopnik, qui est prof à Berkeley, qui est donc une grande chercheuse, qui a montré que, en fait, il y a des pics de créativité dans l'espèce humaine et que ça correspond à des âges entre 5 et 15 ans, grosso modo.
What is going on in this baby's mind?
Donc, qu'est-ce qu'on fait pour accompagner cette créativité? Elle parle même de la R&D de l'espèce. Puisqu'elle démontre que il y a des enfants de 5 ans qui savent résoudre des problèmes que des étudiants de Berkeley ne savent plus résoudre.
So in some ways we think that this baby's thinking is like the thinking of the most brilliant scientists.
Mais c'est en fait un cerveau plus souple, plus adaptable, plus à même de se transformer et de contribuer à penser autre chose.
Alors si je résume, nous avons donc un cerveau particulièrement puissant et créatif entre 5 et 15 ans. Et c'est justement l'âge pendant lequel on est à l'école, l'âge où on apprend. Mais qu'est-ce qu'on apprend, au juste?
Disons que si on regarde la quantité de savoir depuis Diderot et d'Alembert et l'encyclopédie au XVIIIe, on s'aperçoit qu'il y a 100 fois plus de publications scientifiques tous les 100 ans, ce qui fait 1 million de fois plus en 3 siècles. Donc on voit bien que plus personne ne peut connaître toute l'encyclopédie, ni tous les savoirs. Et donc, quel équilibre on donne à la formation généraliste que tout le monde doit avoir et puis à des formations spécifiques? De toutes les manières, il va falloir se spécialiser tôt ou tard. On peut avoir différentes formes de lecture qui peuvent être réinventées et ajoutées. Mais typiquement, on est en plus à une époque où les machines apprennent. On parle de machine learning, d'intelligence artificielle.
Open the pod bay doors, Hal.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
Donc, on voit bien que c'est pas ça qui fait la différence dans nos vies professionnelles ou personnelles d'ailleurs. Mais c'est la capacité à apprendre à apprendre et apprendre à s'adapter à un monde qui change. Apprendre, il y a le changement climatique, comment on se réinvente collectivement. Donc voilà, il y a tout un tas de questions de ce genre. On est face à des défis ouverts dont plus personne n'a la réponse. Et il faut apprendre à non seulement survivre, mais vivre et même s'épanouir dans une situation d'incertitude.
Exactement. Pour retrouver des perspectives d'avenir, non seulement pour nous, mais aussi, et surtout, pour les générations qui nous suivent, il va falloir apprendre à être heureux dans des situations d'incertitude ou de destruction des cadres de référence, pour reprendre les mots de Patrick Lagadec. Parce que si on ne fait pas ça, on condamne nos enfants à vivre dans une sorte de reproduction nostalgique et dégradée de notre époque à nous.
l'UNICEF et l'OMS ont écrit un rapport qui a été publié dans le Lancet en février, il y a 2 ans, donc juste avant que la pandémie ne nous atteigne. Et il disait que la génération de nos enfants n'aura pas l'espérance de vie de nos générations. Alors que nous avons mieux vécu que nos parents et nos grands-parents et nos arrière-grands-parents, eh bien, l'avenir que nous léguons à nos enfants n'est plus de la même qualité. Donc on est entre-temps détruit la planète à une échelle qui est sans précédent. Par exemple, les humains produisent plus de masse aujourd'hui que l'ensemble du système vivant. Donc voilà, c'est ce genre de point de bascule qui se produit en ce moment, qu'on peut quantifier précisément. Et donc, si nos enfants n'auront pas notre espérance de vie, c'est parce que changement climatique, parce que pollution dans les villes, parce que pandémie, parce que obésité, parce que addiction, addiction du XXe siècle, addiction du XXIe siècle, en particulier digital, réseaux sociaux, jeux vidéo, porno, etc. Et en plus, l'intelligence artificielle, dont on peut dire un mot parce qu'elle pèse énormément sur notre avenir ou sur nos possibilités. Elle pourrait être mise au service de choses intéressantes, et je pourrais y revenir, mais elle est aujourd'hui utilisée par les GAFAM pour cibler de la publicité, ce qui est au cœur de leur modèle économique, et nous manipuler. Nous manipuler politiquement, on l'a vu avec les Facebook Files et autres, mais aussi nous manipuler en tant que consommateurs. Et par exemple, on consomme aujourd'hui 2 fois plus de vêtements qu'il y a 10 ans.
Rappelez-vous un peu de ce que disait Nicolas Mainvielle dans le premier épisode.
Il y a des gens qui te disent « l'IA, le quantique, c'est l'avenir », tu dis « mais l'avenir de quoi ?»
Comme lui, François Taddeï souligne la responsabilité des GAFAM et autres entreprises de la tech, dont l'utilisation manipulatrice et mercantile des algorithmes nous enfonce dans la crise climatique par le biais de la surconsommation.
Les Chinois disent que dans le mot « crise », il y a 2 caractères.
Crise en chinois. Oui, qi, je vais vous expliquer. Oui signifie danger. Et qi, opportunité.
Et donc, comment est-ce qu'on apprend à développer la résilience, à éviter les dangers et à saisir les opportunités? Et ça s'apprend à tous les âges. Et inviter les jeunes à dire les difficultés qu'ils ont connues et comment est-ce qu'à leur niveau, ils ont appris à les surmonter et quelles sont les choses qui restent encore difficiles et peut-être qu'on peut apprendre les uns des autres, peut-être qu'on peut changer une partie des règles du jeu, ne serait-ce que les règles du jeu de la salle de classe ou les règles du jeu de l'école ou les règles du jeu de la société. Par exemple, pourquoi est-ce que les enfants ne votent pas? Pour peser sur les règles du jeu de la société que sont les lois. Et donc, voilà, on peut se poser tout un tas de questions de ce genre et ouvrir les imaginaires, inviter les enfants et les adultes à réfléchir en mode imaginaire collectif. Moi, j'appelle ça « et si nous », et puis inviter les gens à compléter cette phrase. Donc, je pense qu'il y a énormément d'endroits où on peut inviter les enfants, enfin les jeunes, quel que soit leur niveau scolaire, et puis tous ceux qui sont restés jeunes d'esprit, c'est-à-dire avec un peu de chance chacun d'entre nous, comment est-ce qu'on peut apprendre à réinventer un système qui par défaut ne fonctionne plus? Le nombre de gens qui, par exemple, envoient leurs enfants étudier à l'étranger, oui, a beaucoup cru. Pendant longtemps, on disait on a le meilleur système, donc on n'envoyait pas nos enfants à l'étranger. Il suffisait d'envoyer nos enfants dans les meilleurs de notre système. Mais aujourd'hui, les classements internationaux type Shanghai et autres montrent que notre système est loin d'être le meilleur. Et donc, il y a tout un tas d'écoles d'ingénieurs, par exemple. Il vaut mieux être un ingénieur suisse aujourd'hui qu'un ingénieur français, en tout cas dans les classements internationaux. Et il y a une génération, personne n'aurait osé dire ça, mais aujourd'hui, c'est ce que dit le monde.
Les résultats menés auprès de 5000 écoliers du CM1 sont sans appel.
Le niveau en mathématiques ne cesse de diminuer, comme le révèle une étude récente du ministère de l'Éducation nationale.
Les petits Français se classent avant-dernier, juste devant Chypre et loin derrière les Irlandais et les Anglais.
8000 collégiens de 3e ont été passés au crible, soumis aux mêmes exercices que les élèves du même niveau il y a 6 ans. Résultat, le pourcentage des élèves faibles augmente de 15 à 19% quand celui des bons perd 3 points.
On a un problème, c'est pas simplement que les maths c'est dur pour les élèves, les maths c'est dur pour les professeurs.
Ça serait presque drôle, si ce n'était pas aussi grave. Car les premières victimes de cette dégringolade sont les enfants dont les parents ne peuvent pas compenser les manques croissants du système scolaire. Autrement dit, ceux des milieux les plus modestes. Et toute notre logique de sélection fondée sur l'excellence à l'école s'en trouve biaisée.
Donc je pense que en fait il y a un très bon livre qui s'appelle La tyrannie de la méritocratie, qui est écrit par un prof d'Harvard, qui montre que la méritocratie américaine dysfonctionne et qu'elle a amené Trump au pouvoir. Parce qu'en fait, quand on pense qu'on mérite d'avoir gagné dans la compétition universitaire, en oubliant qu'il y a 1% des familles qui envoient 50% des jeunes dans les grandes universités, parce que le bagage intellectuel, mais aussi financier et sociétal, de réseaux et autres, fait une grosse différence dans ce genre de choses, on oublie que la méritocratie est un jeu qui n'est pas complètement équitable, pas fair, au sens anglais du terme.
Et si la méritocratie tant vantée par nos politiques depuis des décennies n'était qu'une recette sûre pour la discorde sociale ? Si les étudiants de Harvard ou de Stanford arrivent au sommet du pouvoir, c'est parce qu'ils ont réussi un concours difficile quand ils étaient jeunes. Je cite ici de prestigieuses universités américaines, car nul endroit au monde n'est plus méritocratique que l'Amérique, qui s'estime elle-même la plus méritante des nations.
If you want to compete and win in the global economy, go to college.
Selon Michael Sandels, professeur de philosophie politique à Harvard, le mérite serait assimilable à une forme insidieuse de tyrannie à l'origine du ressentiment qui s'exprime de plus en plus outre-Atlantique.
In recent decades, the divide between winners and losers has been deepening.
Et la méritocratie à la française peut avoir du bon, on est un certain nombre à en avoir bénéficié, donc on a un peu de mal à... Et je pense que plus on en a bénéficié, plus on a du mal à avoir du recul là-dessus, parce que critiquer un système qui a dit que vous êtes le meilleur n'est pas forcément la meilleure manière d'avoir une bonne image de soi. Donc il y a tout un tas de gens qui ont gagné à ce genre de jeu et qui pensent que c'est un jeu équitable et qui mérite de pouvoir décider pour les autres.
Du coup, on fait face à plusieurs problèmes. Premièrement, notre système scolaire dont nous étions si fiers transmet de moins en moins bien les savoirs qui permettaient à des enfants de tout milieu social d'espérer pouvoir prendre l'ascenseur grâce aux études et aux diplômes. Deuxièmement, ceux qui s'en sortent dans ce système très compétitif sont persuadés d'être les meilleurs, alors même qu'ils sont sélectionnés parmi plus de médiocres et qu'ils avaient déjà au départ toutes les cartes pour être les premiers. Résultat, non seulement personne n'est formé aux enjeux pour l'avenir, mais le système fait tout pour que ceux qui arrivent au poste de décision ne se remettent jamais en question, ni eux-mêmes, ni le système qui les a amenés tout en haut.
Et ce que nous dit Michael Sandel, donc ce grand prof d'Harvard, c'est que il n'y a qu'une minorité des gens qui rentrent dans les plus grandes universités ou les plus grandes écoles en France. Et donc il y a une majorité qui n'a pas forcément démérité pour autant, mais qui est considérée comme perdant au jeu de la méritocratie. Et si en plus, de manière très verticale, pour ne pas dire jupitérienne, on impose un point de vue en disant « je sais et d'ailleurs je vous emmerde », on a quand même une difficulté d'acceptabilité et il ne faut pas s'étonner de la violence que cela peut déclencher et des populismes qui sont ravis de ramasser le mécontentement et de créer un sentiment anti-élite qui peut se justifier si l'élite n'est pas suffisamment humble, pas suffisamment à l'écoute, et si ce n'est pas une élite capable de mettre son intelligence individuelle au service de l'intelligence collective et pour tous ensemble essayer de sortir par le haut de situations où il faut avoir l'humilité de dire « personne n'a la solution ». Donc on voit bien qu'on est, on ne peut plus se contenter d'appliquer les recettes d'hier sur lesquelles on a été sélectionné, c'est ça les fameux savoirs d'hier, hein, c'est les recettes qui par défaut fonctionnaient et qui aujourd'hui ne fonctionnent plus.
Ok, c'est sympa cette métaphore culinaire, mais dans le détail, quels sont les ingrédients qui empêchent la recette de fonctionner ?
Je pense que notre système sélectionne des gens qui ne disent pas « je ne sais pas ». Alors que s'ils avaient lu Socrate ou Platon au moins, ils sauraient qu'il était le plus sage de tous les Grecs parce qu'ils savaient qu'ils ne savaient pas. Donc ça fait à la fois partie des savoirs que tout le monde devrait posséder et en même temps, si le système ne sélectionne pas cette attitude d'humilité, c'est fini. Et c'est drôle parce que humilité et humain, c'est la même racine, c'est humus. C'est la terre. En fait, on est tous des terriens. Et donc, cette étymologie profonde devrait nous rendre plus humbles, et donc plus humains, et plus à même de vivre en harmonie avec notre planète Terre. Hein, Mandela disait « je gagne toujours, soit je ne perds pas, soit j'apprends. Et donc il y a cette logique-là, qui est typiquement pas la logique du système scolaire. Le système scolaire, c'est l'erreur est interdite, mais sans erreur, on ne progresse pas. Si on apprend de ses erreurs, c'est pas grave d'avoir fait des erreurs. Et donc c'est un jeu où tout le monde perd en fait. La méritocratie telle qu'elle existe aujourd'hui et qui aujourd'hui amène à beaucoup de dysfonctionnements dans la société, dans l'économie, dans l'école. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de comprendre ce qui fait sens. Il n'y a pas énormément de recherches, mais il y en a quand même sur ce qui fait sens. Et ce qui fait sens, c'est des choses que l'on fait en coopérant, ce qui n'est pas tout à fait le cas des jeux de compétition auxquels on a été invité à jouer. C'est des choses créatives, encore une fois. Ce n'est pas exactement ce qu'on a été le plus amené à faire. Et qui se mettent au service de l'intérêt général.
Pour l'avoir vécu moi-même, je ne peux qu'être d'accord avec François Taddeï. Un système où on rabâche aux jeunes que s'ils sont là, c'est qu'ils sont les meilleurs et que ce qui compte, c'est d'être mieux classé pour sécuriser son avenir individuel, eh bien c'est un système pervers. Déjà, parce qu'il prétend avoir d'autres objectifs, l'excellence au service de la nation, par exemple. Mais aussi parce qu'il martèle que la priorité, c'est d'être devant, d'être le premier. Et ça laisse des traces durables, car ce réflexe de penser que pour se protéger, il faut passer devant les autres à n'importe quel prix, provoque des comportements carriéristes plus ou moins conscients et bien éloignés de l'intérêt général qui se voulait pourtant la matrice de sélection des élites.
La spécificité de la méritocratie américaine, c'est qu'elle est très biaisée par l'argent. Oui. Je pense que la perversion, puisque c'est le mot que vous avez utilisé, de notre système, vous l'avez bien compris, c'est qu'on a un classement d'entrée et de sortie. Et il n'y a pas de classement d'entrée ni de sortie à Harvard, ni à Oxford, ni dans la plupart des grandes universités mondiales. Il y a les Chinois qui sont un peu comme nous, mais nous, de toutes les manières, quelle que soit la discipline par laquelle on est rentré, par exemple à l'école polytechnique, on peut rentrer par les maths ou par la physique ou par d'autres domaines scientifiques, et ben, il n'y aura qu'un seul classement de sortie, avec à chaque fois l'accès au grand corps et aux grandes carrières, et enfin en tout cas l'idée qu'on s'en fait. Perversion, puisque c'est le mot que vous avez utilisé et que je reprends volontiers, fait qu'on sacrifie à nouveau tout là-dessus. Et c'est la même chose en médecine.
Je crois que la première difficulté, c'est celle des conditions de travail. C'est-à-dire qu'un interne, il travaille en moyenne 58 heures.
J'ai fait des crises d'angoisse.
En chirurgie, on est très souvent au-dessus de 70 heures. Et là, la crise Covid, évidemment, a amplifié le phénomène. Ce n'est pas rare que les internes travaillent plus de 100 heures par semaine. Et ça, c'est une cause d'épuisement professionnel.
Mais là, personnellement, je suis à bout.
Là, on en est à donc un suicide tous les 18 jours. Un soignant qui est épuisé, c'est un soignant qui soigne aussi moins bien.
Et donc, ceux qui devraient prendre soin, en fait, ils n'ont pas pu prendre soin d'eux-mêmes. Le système a créé un burn-out et un taux de suicide épouvantable également là-bas. Et donc, on a des élites qui sont profondément en crise, en fait. Donc déjà, elles ne vont pas bien. Et en plus, elles ont appris à s'exploiter elles-mêmes. Et puis ensuite à exploiter les autres, et puis alors ça leur paraît naturel d'exploiter la planète. Et donc comment est-ce qu'on passe de cette exploitation à une capacité à prendre soin de soi, des autres et de la planète? Ça c'est des choses qu'on n'apprend absolument pas dans notre système éducatif. Au contraire, c'est entre guillemets perdre du temps que de prendre du temps pour ces choses qui sont essentielles par ailleurs. Et donc si on déconstruit ce récit, et qui est un récit de la méritocratie et de la République, etc. Et si on remonte à ses origines, pendant les Lumières, on a plutôt progressé par rapport à la monarchie absolue qui précédait. Mais c'est surtout des hommes blancs qui ont éclairé des hommes blancs les Lumières. Et donc on a besoin de prendre conscience de tout ça et à réinterroger, y compris le package athénien et les Lumières. Par exemple, les métèques. C'était les migrants. Hein. Vous veniez de la ville voisine d'Athènes, vous étiez un métèque. Hein. Donc, on est toujours l'étranger de l'autre. Donc, on voit bien qu'il y a un certain nombre de défauts de l'époque où les perdants des Lumières, qui étaient déjà les perdants d'Athènes, hein, puisque Athènes et les Lumières, c'est à peu près la même réinvention d'un même package que l'on glorifie à juste titre, parce que l'éducation, la citoyenneté, la démocratie, le débat, la science, la philosophie, les arts, on en veut tous. Qu'on soit homme ou femme. Mais enfin, il valait mieux être un homme qu'une femme à l'époque. Et aujourd'hui encore, notre système n'est pas aussi inclusif qu'il le devrait. Et donc, il y a besoin de repenser tout le package en étant capable de critiquer ce qui a bien fonctionné et ce qui a moins bien fonctionné et à faire un espèce de devoir d'inventaire des Lumières. Et en fait, quand on prend ce recul, on est déjà beaucoup plus humble. La Finlande parle de gouvernement humble. On n'y est pas tout à fait.
Une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien.
Avec beaucoup d'humilité.
On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres.
Avec beaucoup de patience et d'humilité et en même temps d'enthousiasme.
Je traverse la rue, j'en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler.
Ensuite, en étant très humble.
S'ils veulent un responsable, il est devant vous, qu'ils viennent le chercher. Et ce responsable, il répond au peuple français et au peuple souverain.
Et donc, il y a eu des moments de bascule dans l'histoire du XXe siècle. Et donc, ces moments de bascule, je pense qu'on est, en tout cas j'espère qu'on est, dans ce moment de bascule du XXIe siècle pour réinventer ce fameux package des Lumières et d'Athènes et le rendre plus inclusif et nous aider à sortir par le haut de l'enchaînement de crises dans lequel on est aujourd'hui, et on est tous brinque-ballés, et c'est pas les chaînes d'infos continues et les réseaux sociaux qui nous aident à prendre le recul nécessaire pour sortir par le haut de ces situations.
Ah, je crois effectivement que si on s'en remet à CNews et à Instagram ou Facebook pour comprendre ce qui se joue, identifier les menaces qui pèsent sur notre avenir, garder la tête froide et prendre les décisions qui s'imposent pour réenchanter le futur, eh bien on est mal barré. J'en suis persuadé. L'école a un rôle clé à jouer pour préparer les jeunes générations à penser et à réagir autrement. Mais est-elle aujourd'hui en capacité de le faire? Et si ce n'est pas le cas, peut-elle se transformer rapidement pour y arriver?
On a un système éducatif qui est un système où le contrôle, et c'est d'ailleurs même une partie de ce que les enfants apprennent très tôt, ils disent « Ah, j'ai un contrôle !» les adultes contrôlent les enfants, les profs sont contrôlés par les inspecteurs, il y a des inspections générales, comme vous le savez bien, et il y a N niveaux hiérarchiques et de contrôle. Donc comment on passe d'une pyramide de contrôle à une pyramide de confiance? Comment est-ce qu'on développe la bienveillance à tous les étages du système? Comment est-ce que, au lieu d'être dans l'exploitation, on est dans l'exploration? Comment est-ce que, au lieu d'être dans la compétition, on est dans la coopération? Donc, il y a vraiment besoin de se poser sur les valeurs. Et puis ensuite, on peut réfléchir à, en termes de programme, qu'est-ce que ça veut dire, en termes d'activité que les jeunes peuvent avoir.
8h30 dans cette école primaire d'Helsinki. Ce matin, ce n'est pas maths puis grammaire. Désormais, ici, tous les cours sont croisés autour d'une thématique par mois. Pour janvier, c'est penser la science. L'occasion de parler un peu anglais, de travailler le calcul, l'informatique ou la chimie par petits groupes. Et ils travaillent assez peu entre les récrés interminables. Au final, 677 heures de cours par an contre 900 en France en primaire. Et cela n'empêche pas les jeunes Finlandais de se classer chaque année dans le trio de tête des classements internationaux en lecture, maths et sciences. Pour les plus âgés, l'école finlandaise est aussi une école de la vie. Tous ont des cours de repassage, de ménage et de cuisine.
Il y a par exemple des classes qui, en particulier dans l'Europe du Nord et ailleurs, qui passent beaucoup de temps dans la nature. C'est une manière de ne pas se couper de nos racines vivantes. Ça, c'est assez simple. Développer une école de la compassion, où on apprend à lire ses émotions, on apprend à lire celles des autres. On développe l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle, et pas simplement des intelligences uniquement rationnelles, logico-déductives, qui peuvent être très utiles. Mais on ne peut pas dire que tout s'y résume, parce qu'on peut, de manière très logique, foutre la planète en l'air.
Bah ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Avec une logique imparable, on épuise les ressources. Parce que, mais c'est bon pour la croissance, donc c'est bon pour l'emploi, donc c'est bon pour les retraites. Alors comment peut-on transformer un système éducatif pour sortir de ces logiques qui nous emmènent droit dans le mur climatique?
Il faut penser un système alternatif qui inclut toutes les dimensions. Parce que l'école, vous ne pouvez pas résoudre les problèmes de la société juste avec l'école. Donc il y a besoin de comprendre l'ensemble de l'écosystème et des jeux de contraintes qui sont dedans, des intérêts de certains au statu quo et des souffrances de beaucoup du système actuel pour le redesigner. Mais ça suppose une vraie prise de recul. Et je pense qu'elle est possible.
Attention quand même à ne pas confondre prise de recul et recul tout court. Car comme le dit François...
Le nombre de gens qui veulent nous ramener en arrière, c'est terrifiant.
Mais oui, l'uniforme, les leçons de morale à l'école, tout ça. Attention aussi à ne pas projeter sur les jeunes générations la nostalgie que nous avons de la nôtre. Ce fameux « Ah mais c'était mieux avant ». Par définition, les jeunes ne peuvent pas être nostalgiques d'un passé qu'ils n'ont pas connu. Sauf si, les plus âgés, leur serinent sans arrêt qu'avant c'était mieux et qu'il n'y a qu'à refaire comme avant pour que ça redevienne bien. Oui, sauf qu'entre-temps, eh bien, le monde a changé, les rapports sociaux aussi, et je ne vous parle même pas des technologies. Mon grand-père, par exemple, il était assez nostalgique de la période de Gaulle, qui a coïncidé avec son ascension sociale. Mais moi, comment aurais-je pu être nostalgique d'un temps que je n'ai pas connu, à moins que l'on ne m'ait bourré le crâne avec l'idée que c'était bien mieux à l'époque du général. Mais mieux pour qui ?
Encore une fois, si on prend le siècle de Périclès, ou le siècle des Lumières, d'abord c'est un siècle à chaque fois. Donc, pourquoi est-ce que c'est un siècle ? Ça veut dire que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et puis, on cite Périclès pour son siècle, mais d'abord il n'a pas vécu un siècle, donc il n'y a pas que lui. Et puis pour les Lumières, on pourrait citer des dizaines, centaines d'auteurs suivant sa connaissance intime de l'histoire de l'époque. C'est un réseau d'acteurs et d'actrices qui compte pendant les Lumières, qui est la période la mieux documentée. Typiquement, les salons et les salonnières ont joué un rôle essentiel pour permettre un débat constructif qui faisait autorité. Et je reviens sur le mot de Michel Serres, parce que c'est un mot que j'aime beaucoup. Le mot d'autorité est galvaudé par énormément de populistes en particulier, mais l'autorité pour Michel Serres, c'est ce qui fait grandir. Et donc un débat qui fait autorité, c'est un débat dont on sort tous grandi. La difficulté que j'ai avec notre époque, c'est que les débats dans les médias, sur les réseaux sociaux, ne font pas autorité au sens où ils ne nous font pas grandir pour la plupart.
Vous-même,
vous aussi.
Un autre, pas du tout.
Vous pareil.
Pas du tout, pas
vous
du
pareil,
tout.
Pour la politique qu'elles ont menée, pourquoi ? Mais non, c'est vous qui êtes ridicule.
Franchement,
vous êtes complètement ridicule.
Je vais vous poser une question et vous ne me laissez pas la répondre.
Bah non, c'est simple.
Tout. Mais alors, laissez-moi finir.
Non, non,
laissez...
ça, c'est pas, non, non, c'est pas possible de vous entendre dire des choses.
Je peux parler, Madame Pécresse.
Et donc, cette médiocratie médiatique est un vrai problème.
Autrement dit, si on veut transformer l'école sans la renvoyer dans un passé fantasmé, eh bien il faut mobiliser un réseau d'acteurs et ne pas trop compter sur les dirigeants politiques. Mais concrètement, comment on fait ?
Je pense que le benchmark international peut beaucoup aider là-dessus. Ouais. Les comparaisons internationales nous montrent que, en fait, changer un système éducatif, c'est pas facile, mais c'est possible. D'accord. En fait, si on apprend à relever des défis dès le plus jeune âge, donc je donne un exemple d'une école très concrète. La Fondation Lego a cherché l'école qui préparait le mieux au XXIe siècle. Ils ont fait le tour de la planète, ils sont allés, y compris dans tous les lieux auxquels on pourrait penser spontanément, et ils ont fini par dire que l'école qu'ils trouvaient la plus intéressante était en Haïti. Okay. Donc c'est intéressant parce que c'est pas la Finlande, c'est pas Singapour, c'est pas chez les quartiers latins, c'est pas la Californie, donc c'est pas les ressources qui font la différence, c'est l'état d'esprit, y compris des enseignants et de l'ensemble de l'écosystème. En fait, c'est une école des défis. De 6 à 18 ans, on apprend à y relever des défis. D'accord. Et donc, à 6 ans, ben, on aime la nature et on trouve que, on a compris que reboiser était une bonne chose à faire. Et ben, on apprend à planter une graine. Donc, c'est assez élémentaire comme acte, mais c'est déjà quelque chose parce qu'on s'est reconnecté à des besoins et à de l'action et à une capacité propre à faire quelque chose, à avoir un impact positif. À 12 ans, on peut avoir son premier téléphone et trouver que les SMS, c'est beaucoup trop cher, en particulier dans un pays où les ressources sont rares, et apprendre à coder son propre serveur de SMS. Ce qui est quand même intéressant, ce qui prouve que la technologie peut être abordable, y compris par des jeunes, quand la motivation est là. Et à 18 ans, ils ont, d'une année à l'autre, choisi d'autres priorités, mais par exemple, cette année, ils ont installé des panneaux solaires, et électrifier non seulement leur école, mais une partie du quartier, avec de l'énergie renouvelable, etc. Et encore une fois, dans un pays où l'énergie peut être encore plus limitante qu'elle ne l'est ici. Et il y a peu de temps, ils avaient une autre priorité qui était que Haïti est un pays où les tremblements de terre sont malheureusement fréquents. Et donc, ils ont installé le premier réseau de détection sismique du pays. En se mettant en relation avec des chercheurs à travers le monde, en se mettant en relation avec d'autres écoles, et ils ont su installer des détecteurs d'ondes sismiques, etc., et réussir à faire des choses qui leur ont valu un premier prix aux Olympiades internationales de géologie. Et donc on voit bien qu'on peut faire des choses absolument exceptionnelles dans un environnement qui, a priori, n'a rien de favorable. Taïwan, par exemple, a décidé de généraliser ce genre d'approche. Donc à l'échelle d'un pays, les enfants peuvent choisir de passer 20% de leur temps sur un défi pendant toute une année. Et ils le font un peu différemment en fonction des âges et en fonction de leur centre d'intérêt. Et les adultes sont là pour les aider à comprendre la complexité des défis, la science ou les problèmes sociétaux, environnementaux, historiques associés à ce défi. Et donc on apprend plein de savoirs, y compris des savoirs qui peuvent être considérés comme des savoirs fondamentaux. Mais tout d'un coup, comme ces savoirs ont du sens, on les ancre beaucoup plus profondément et on est typiquement dans un pays qui réussit extrêmement bien dans les classements internationaux type PISA et autres.
Il y a donc des systèmes scolaires, comme à Taïwan, qui parviennent à progresser et à se transformer. Que diable manque-t-il donc au nôtre pour faire la même chose ?
Il y a un manque de lien avec la recherche aussi.
Oui, c'est vrai.
Parce que les universités françaises ont été fermées à la Révolution, en partie parce qu'elles n'ont pas contribué aux Lumières, puisqu'elles contribuaient à avoir un droit de censure, donc pour des bonnes raisons, je dirais, à l'époque, elles ont été fermées, mais aujourd'hui, on paye cette séparation, et l'université est un lieu où l'étudiant peut être confronté aux chercheurs. Or, nous, on a le CNRS d'un côté, les grandes écoles avec peu de recherche, dans la plupart d'entre elles, de l'autre, et donc une coupure qui est profondément néfaste. Parce qu'un chercheur, par définition, il est confronté à l'inconnu, et donc par définition, il ne sait pas. Donc c'est des pédagogies du questionnement et de l'humilité et qui fonctionnent et qui en l'occurrence aident à bâtir un raisonnement, à le confronter à une réalité par une expérimentation, par une capacité à regarder ce que la littérature scientifique a dit avant, à gravir des épaules de géants et à partir de questions qui ont du sens. Donc cette capacité-là, à mon avis, c'est un gros problème de notre système. Et sur les aspects manuels, et même plus généralement sur la hiérarchie des disciplines, Auguste Comte ne nous a pas aidés, puisqu'il a dit qu'il y avait les maths, et puis la physique, et puis la chimie, et puis un certain nombre de disciplines d'importance toujours moindre. Et donc cette idée qu'il y a non seulement une hiérarchie des esprits, mais en plus une hiérarchie des disciplines, il n'y a pas de hiérarchie des disciplines à Oxford ou à Harvard. Mais dans le système... Et donc les métiers manuels ne sont que la dernière roue du carrosse de cette hiérarchie des disciplines. Et puis il y a des choses assez folles en fait. Le mot ingénieur a le mot génie en français. Le mot engineer en anglais c'est engine. Et engine c'est le moteur. Et donc dans un cas on met les mains dans le cambouis et on comprend comment ça marche. Et dans l'autre cas on est un génie.
Le génie de la...
qui vit dans le monde des idées et donc n'a aucun rapport avec la réalité. Alors que c'est le même métier, hein, au moins en théorie. Et donc cette capacité, moi c'est l'une des seules choses que j'impose à mes étudiants ici. Ils peuvent prendre les disciplines qu'ils veulent, ils peuvent prendre les défis qu'ils veulent. Il faut qu'ils aient une approche théorique et une approche expérimentale pour contraster les deux, les combiner et être capable de conceptualiser et d'agir et de faire des allers-retours entre l'action, la réflexion, aussi souvent qu'il le faudra pour que à la fois la réflexion s'affine et que l'action soit vraiment impactante. Mais ça suppose de savoir travailler avec des gens qui ont les mains dans le cambouis alors qu'on est soi-même un théoricien ou inversement, ce qui suppose qu'on ne regarde pas les gens de haut, etc., etc. Et donc ça suppose cette humilité, cette compassion, cette capacité à coopérer, à communiquer, autant de compétences transversales qui sont une évidence dans les compétences du 21e siècle, que l'OCDE recommande, mais qui sont tout sauf présentes dans notre système éducatif.
En écoutant François, bien, j'ai l'impression qu'on a confondu ces dernières années progrès pédagogique et progrès technologique, en mettant les efforts sur la fourniture de tablettes et de tableaux connectés, sans repenser la pédagogie, ni s'interroger sur les nouvelles compétences à développer pour l'avenir.
De toutes les manières, si la pandémie nous a appris quelque chose, c'est que l'écran ne remplace pas la classe et que l'ordinateur ne remplace pas l'enseignant. Mais aussi le collectif de jeunes, etc., c'est indispensable. Et on voit bien qu'une bonne partie de ce... non seulement des savoirs, mais aussi des savoir-vivre, des savoir-être que les écoles peuvent transmettre, même si c'est pas toujours au programme... sont indispensables à une éducation réussie. Donc cette prise de recul, à la fois on a découvert à quel point on était attardé, parce que un manque d'investissement sur ces sujets, y compris... Enfin, moi je viens de la recherche biomédicale. Pourquoi est-ce qu'on a avancé face au Covid? Pourquoi est-ce qu'on a avancé face au vieillissement? Pourquoi est-ce que l'espérance de vie a cru, même si avec les problèmes que je décrivais, mais qui ne sont pas liés à la santé, qui sont liés à notre environnement? On a progressé pendant des siècles. C'est parce qu'on a fait de la recherche. On a des lieux de recherche et on investit un peu autant que, à peu près autant que les grands secteurs de l'économie industrielle et autres qui investissent dans la R&D. Il n'y a pas de R&D de l'éducation. Il n'y a pas de R&D. C'est le premier budget de l'État. Il n'y a pas d'investissement. C'est moi, quand j'ai découvert ça, j'ai été interpellé.
Ah là, c'est le moment de descendre, fouiller les archives et de trouver quelques chiffres. En 2019, la France a ainsi consacré plus de 160 milliards d'euros à son système éducatif au sens large, ce qui représente 6,6% du PIB. À lui seul, le ministère de l'Éducation nationale, donc hors enseignement supérieur et recherche, constitue effectivement le premier poste de dépense pour l'État, avec plus de 78 milliards d'euros budgétés en 2022. Mais quand on y regarde de plus près, 92% de cette somme est consacrée à la masse salariale, c'est-à-dire aux salaires et aux cotisations sociales des enseignants. Et quant aux crédits qui seraient dédiés à de la R&D pédagogique, j'ai eu beau retourner les archives, je n'en ai trouvé aucune trace. C'est dire si le montant, pour autant qu'il existe, doit être symbolique.
Donc comment est-ce qu'on décloisonne et on investit réellement dans une recherche qui se met au service des progrès des apprentissages, des progrès des enseignants? Comment est-ce qu'on permet à plus d'enseignants de faire de la recherche? Vous êtes un médecin, vous voulez faire de la recherche, il y a mille manières de le faire. Vous êtes un enseignant, vous voulez faire de la recherche, c'est extrêmement difficile. Vous pouvez progresser dans la carrière inspecteur, etc., chef d'établissement, mais pas par la recherche. Alors que si vous voulez progresser dans la carrière hospitalière, vous devez avoir fait de la recherche. Donc c'est un ministère qui croit au savoir et qui ne favorise pas ceux qui en acquièrent sur le système et comment est-ce qu'il évolue. Ben, ce n'est pas un ministère qui peut progresser. Donc y a un système qui est profondément verrouillé, en fait, parce que convaincu de son modèle, qui est un modèle ultra normé, et où la rue de Grenelle définit ce que tout le monde doit faire. La vision de certains parlementaires au 19e siècle, c'était quand le ministre de l'Éducation rentre dans n'importe, le ministre de l'Instruction publique à l'époque, rentre dans une salle de classe, quelle qu'elle soit, il doit savoir exactement ce que le maître va dire au moment où il rentre dans la classe. Ce qui est un programme et qu'on doit l'avoir suivi de manière industrielle. Donc c'est une aberration. Et donc comment est-ce qu'on sort de ce modèle-là? Et comment est-ce que... moi, ce qui est assez étonnant, c'est que quand j'ai écrit des rapports pour les deux derniers ministres de l'Éducation nationale, et puis pour l'enseignement supérieur et la recherche, et même la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, quand j'écris ces rapports, je croise le banc et l'arrière-banc, les N niveaux hiérarchiques de l'ensemble de ces systèmes. Et grosso modo, je rencontre que des interlocuteurs qui me disent qu'ils sont d'accord, mais que l'étage du dessus n'en voudra jamais, ou que l'étage du dessous fera une grève. Mais comme j'ai rencontré tous les niveaux, je sais que ce n'est pas vrai. Donc fondamentalement, si on veut un système qui évolue, il faut avoir droit à minima à la critique constructive. Je ne dis pas qu'il faut pouvoir dire tout et n'importe quoi, mais un devoir de réserve qui n'est pas associé à un devoir d'expression constructive voici les difficultés que j'ai rencontrées, voici ce qu'on pourrait faire pour en sortir, c'est un système qui ne peut pas évoluer. Par exemple, dans l'aviation civile, il y a un devoir d'expression des incidents, parce qu'on sait aujourd'hui qu'une somme d'incidents, ça peut faire un accident, et donc beaucoup de morts. Les sommes d'incidents du système éducatif qu'on ne décrit pas, qu'on ne raconte pas, ça fait régulièrement des drames. Et les systèmes publics qui ont su se transformer, il en existe, encore une fois, au Canada, en Finlande et dans d'autres endroits. Et la manière dont ils se sont transformés, c'est avec humilité. C'est en étant à l'écoute des besoins des territoires, c'est en décentralisant, c'est en donnant de l'autonomie aux établissements, en disant, mais en fait, vous connaissez mieux que nous les difficultés de vos territoires. Et après, c'est une question de péréquation financière pour maintenir l'équité territoriale. Donc l'équité territoriale, c'est pas tout le monde doit faire exactement la même chose en même temps. C'est ceux qui sont les plus démunis doivent avoir plus de ressources pour compenser leurs difficultés. Et en France, on fait croire, parce qu'on a appelé zone d'éducation prioritaire des endroits où en théorie on donne plus de moyens, ce qui est vrai en nombre d'heures, mais qui n'est pas vrai financièrement, puisqu'on envoie des petits jeunes au casse-pipe qui viennent d'avoir leur diplôme et qui sont sous-payés, et que tous les profs les plus aguerris et ceux qui pourraient éventuellement aider une partie de ces jeunes en difficulté sont envoyés en centre-ville pour finir leur carrière.
Bon, d'accord François, on la connaît bien cette absurdité qui consiste à mettre les jeunes profs dans les pires quartiers. Mais si augmenter les heures et les moyens ne suffit pas, alors, par où on commence pour transformer ce système qui ne répond plus à nos besoins d'avenir?
Un pays comme Singapour, qui peut avoir d'autres difficultés par ailleurs, une des manières dont ils sont devenus numéro un dans le système éducatif mondial via PISA, c'est en envoyant chaque personne promue dans le système à l'international, voir comment d'autres mettent en œuvre des solutions face aux défis X, Y ou Z dont ils vont avoir la responsabilité. Et même en étant premier au monde aujourd'hui, ils continuent à faire ça. Donc cette capacité à s'inspirer de modèles différents me paraît cruciale. Et donc je pense que les transformations en profondeur sont possibles, mais si elles sont imposées d'en haut, elles seront refusées presque par principe. Mais si elles sont construites, si on espère qu'elles viennent que d'en bas, au mieux ça sera dans un système privatisé. Et donc ça ne marchera pas. Il peut y avoir des poches d'innovation ici ou là, et il faut les encourager, mais ça ne suffit pas. Donc l'interdisciplinarité est une seconde nature ici, parce que si vous voulez vous attaquer à un problème complexe, il n'y a aucune discipline qui est la solution. Que ça, vous appelez votre problème complexe le climat, la pandémie, ou l'arrivée de l'intelligence artificielle, ou la biodiversité, ou même la santé en général, aucun de ces sujets ne peut être abordé par une seule discipline. Par contre, si on assemble des gens aux compétences complémentaires, ils vont pouvoir faire ensemble des choses qu'aucun d'entre eux ne saurait faire seul.
Ce que j'aime chez François Taddeï, eh bien, c'est qu'il y croit. Il a confiance en l'être humain et en sa capacité collective à s'emparer d'un problème et à le traiter. D'ailleurs, à son niveau, c'est ce qu'il fait tous les jours au sein de son Learning Planet Institute. Pour lui, les fondamentaux de ce qu'il faut apprendre à l'avenir sont parfaitement clairs.
Donc les invariants, c'est l'intelligence collective, c'est la capacité à coopérer, c'est l'interdisciplinarité, c'est l'éthique, c'est l'humanisme, c'est la capacité à se questionner.
Entre nous, vous avez l'impression qu'on a tout ça dans notre système éducatif ?
Humboldt disait déjà il y a plus de 200 ans, dans les Lumières allemandes, l'université est un lieu où on est libre d'apprendre, libre d'enseigner, libre de faire de la recherche. Pour nous, c'est fondamental d'avoir ces libertés et d'organiser l'écosystème pour maximiser ces degrés de liberté. Et pas dire, ah ben non, vous n'êtes pas libre d'apprendre ça parce que c'est pas au programme ou parce que vous devez choisir une filière, ou etc. Et il y a un texte qui a été écrit dans une collaboration avant nous d'ailleurs, entre la Fondation Antoine de Saint-Exupéry et le Labo des Histoires.
S'il vous plaît, dessine-moi un mouton.
La septième planète fut donc la Terre.
Des jeunes ont été invités à écrire si le petit prince avait visité une huitième planète, puisqu'il en a visité sept dans l'histoire, qu'est-ce qu'il aurait vu ? Et il y a une planète qui s'appelle la planète éducation. Et dans la planète éducation, le petit prince rencontre une étudiante. Et sur cette planète, il y a plein de boîtes. Et le petit prince dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Il dit, je cherche une boîte dans laquelle je puisse rentrer.
C'est génial.
Et le petit prince, il dit, ah bon, ça sert à quoi ? Il dit, c'est ce que m'ont dit les adultes, que si je voulais un travail, il fallait que je rentre dans une boîte. Tu penses, ah bon, c'est bizarre quand même. Et puis à un moment donné, elle dit, ah ça y est, j'en ai trouvé une dans laquelle je rentre. Ah ouais, mais en fait, j'ai quand même un bras et une jambe qui ne rentrent pas, est-ce qu'il faudra que je les coupe? Voilà, et c'est ça notre système éducatif.
Malheureusement, oui. C'est ça notre système éducatif. Tiraillé entre des impératifs économiques et cette conscience diffuse que les recettes d'hier ne répondent plus aux défis d'aujourd'hui, comme le dit François. J'ai bien peur que cette piste ne soit un cul-de-sac. Car on part de tellement loin. Le mammouth me semble tellement bloqué dans ses références, dans ses croyances, dans ses jeux d'acteurs. Et pourtant, d'autres pays ont réussi à se transformer, mais ils l'ont apparemment fait avec un cocktail de confiance et d'humilité que je ne retrouve pas beaucoup dans l'environnement institutionnel français. Nous risquons donc d'aborder les grandes incertitudes à venir avec des élites en crise et déphasées, à moins que d'autres paramètres ne permettent de changer, au moins un peu, cette donne.
Enquête d'avenir.
L'enquête continue. Vous pouvez retrouver tous les épisodes, leurs sources, les bios des témoins et bien d'autres choses encore sur le site internet www.enquêtedavenir.com.